l'antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Et nous accueillons Christophe au 39-21. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Olivier.
Merci de nous appeler ce soir au 39-21 pour vous raconter. Alors, dites-moi tout.
Oh, tout.
Ça, alors, presque tout, hein, si vous avez envie de me dire tout, vous me dites tout, mais...
Oh, c'est très vaste, en fait. Ça a commencé en fin 2014, où j'ai quitté mon ex-femme parce qu'elle avait un comportement, on va dire, pas très particulier vis-à-vis de ma fille, en fait. Donc, elle a tapé.
Elle a tapé, c'est ça?
Oui, elle a tapé, oui, oui.
D'accord.
Oh, c'était pas méchant, mais c'est quand même des claques, on va dire, au coucher. Elle tenait par les cheveux, à la douche. C'était vraiment des comportements très, c'était vraiment très... un peu autoritaire, on va dire.
Et vous vous êtes quitté pour cette raison-là ou ça n'allait plus trop entre vous ?
Ah bah ça n'allait plus non plus. Hein. Je pense qu'elle a passé ses nerfs puisqu'elle a continué après. Quand nous sommes passés au tribunal, tout ça, elle a continué. Quand je recevais ma fille, j'ai des enregistrements, quand je recevais ma fille, elle continuait à la taper. Elle me disait « Papa, maman me tape dans la chambre, me tape dans la salle de bain. Elle dit des choses méchantes sur toi. » Donc voilà, elle a passé ses nerfs en fait.
Alors ça a commencé en 2014, vous m'avez dit.
Voilà.
Elle avait quel âge, votre fille, à ce moment-là ?
Entre 4 ans et demi.
Oui.
4 ans et demi, ouais. 4 ans et demi.
D'accord.
Donc c'était très dur. Ouais, c'était quelque chose de dur. Donc je suis parti un jour où elle me l'a laissé, elle était en stage.
Oui.
J'ai gardé ma fille et j'étais chez une amie. Et là, ma fille, elle m'a tout dit, quoi, en fait. Elle m'a dit, voilà, maman me tape et tout ça. Donc j'ai décidé ce jour-là de dire... Bon, tant que le jugement n'est pas fait, je protège ma fille, en fait. Donc, je suis passé à la gendarmerie pour signaler, pour dire que je gardais ma fille, pour prévenir le procureur, en fait, pour faire les choses en règle.
Oui.
Dire que je prenais un avocat, que je l'amenais voir un psy, quand même, pour qu'elle aille mieux, et que j'allais la changer d'école en attendant, et voilà. Donc, j'ai fait, on va dire, les choses dans l'ordre, pour pas qu'on me reproche, mais la psy a bien vu qu'il y avait un problème relationnel avec la maman. Parce que les phrases de ma fille sont assez poignantes quand même sur le sujet. Quand elle dit « Maman me tape, maman me crie dessus, maman crie sur papa, mais papa fait rien. » Donc ça, c'était une enfant de 4 ans et demi qui parlait.
D'accord.
C'est dur à entendre, c'est dur à le savoir. Mais j'ai perdu. Voilà, on est arrivé au stade où j'ai perdu parce que la maman, bon, elle est fonctionnaire. Bon, ça va, elle a une bonne réputation, donc j'ai perdu ma fille, voilà.
Et pourquoi vous avez perdu
Je me suis retrouvé devant des attestations, devant 50 attestations pratiquement de professionnels de son boulot et qui m'ont défoncé alors que la majorité, je ne les connaissais pas.
Et donc vous avez perdu entièrement la garde de votre fille ?
Non, j'avais les vacances et puis voilà, c'est tout. Mais quand je recevais ma fille en week-end, ma fille, c'était dès que je lui disais, dans une heure, on part chez maman, voilà, elle pleurait, c'était dur. Les séparations étaient très dures. On avait même une situation qui était un peu particulière à un moment, c'est que je l'avais ramenée chez sa maman, et la petite, elle s'est sauvée de la voiture pour courir dans la rue.
Ah oui.
Donc c'est des trucs qui sont durs à vivre.
Oui.
Mais la maman disait que c'était moi qui manipulais ma fille, à raconter plein de bêtises, manipulation, complexe d'Oedipe et tout ça. Donc, elle a été jusqu'à... Quand j'avais ma fille, puis on n'avait pas encore le procès, elle a été jusqu'à porter plainte pour enlèvement d'enfant. J'étais vraiment acculé, on va dire, là-dessus. J'enlève ma fille. Bon. Quand on veut protéger quelqu'un, on se fait... Ouais, c'était dur à vivre. Rien que d'y repenser, là, c'est assez dur à vivre.
Ouais, c'est-à-dire que lorsqu'on vit une séparation comme ça, vous savez, vous connaissiez le jeu de la justice familiale, les avocats, les...
Ah non, non, du tout.
Les dépositions, c'est pas quelque chose que vous connaissiez ?
Non, du tout. Parce que j'ai une première femme où j'ai une grande fille, justement, sa grande demi-sœur.
D'accord.
Et comme nous sommes passés à la JAF... d'où je suis, pas loin de chez moi à Quimper. On y est allé toutes les deux sans avocat. J'avais pas besoin de dire quoi que ce soit parce que c'est une super maman. C'est une super maman. Ma fille, elle est. Je m'inquiète pas qu'elle l'ait. Et quand nous sommes passés, à l'époque, on a fait le principe de, vu que je descendais sur Bordeaux, de dire, bon, ben, vu que je paye la route, il n'y a pas de pension alimentaire. Donc on s'est mis d'accord, oui, il n'y a pas de souci. Bon, vu que tu fais la route, on enlève la pension alimentaire. Donc voilà, des gens intelligents, on pense à l'enfant, en fait. On a toujours pensé à l'enfant. Et là, dans le cas de figure où c'est l'inverse, c'est que quand je suis revenu m'installer en Bretagne, j'ai retrouvé ma grande. Donc là, quelle fierté, ça faisait plaisir.
Oui.
Et on s'en fout du jugement. C'est-à-dire que maintenant, je lui donne des contributions pour l'école. Je donne des contributions pour... C'est moi qui paye le sport extérieur à l'école. Je paye un peu la cantine. J'ai ma fille quand je veux. C'est pas que pour les vacances. Je peux l'avoir le week-end. Je peux aller passer à la voir à l'école la semaine. Je peux passer chez la maman. Je discute avec elle, son nouvel ami. Je joue avec l'enfant qu'ils ont eu ensemble. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a aucun souci. Quoi.
Ouais, on voit combien ça se... Quand les deux parents s'entendent bien, combien c'est facile et combien je suppose que votre grande fille, elle est heureuse.
Ah oui, elle est heureuse. Le seul truc où elle n'est pas heureuse, c'est qu'elle connaît le comportement de son ancienne belle-mère parce que j'ai su en revenant en 2015 que, ah ben, en fait, ça s'est passé tout simplement. On était chez sa maman et puis elle m'a dit « Papa, t'es vraiment revenu en Bretagne ?» J'ai fait « Oui, papa est revenu en Bretagne, il n'y a pas de souci. » Papa, il a un appartement à Quimper, ça y est, papa est de retour. Et là, elle s'est effondrée devant moi et sa maman. Et elle a dit, papa, faut que je te dise que quand j'allais en vacances à Bordeaux, chez sa belle-mère, eh ben, elle me tapait. Et là, je lui ai dit, non, mais ma puce, fallait me le dire. C'est quoi ce problème-là? Et elle m'a dit non, parce qu'elle me disait que si je te le disais, je te verrais plus. Donc, je me rends compte en 2015 que ma petite, pendant pratiquement plus de 3 ans, ou peut-être 2 ans, elle s'est pris des coups. Et elle n'a rien dit pour rester avec moi.
Oui, d'accord. Et par rapport à je reviens sur la décision de la justice familiale, en fait. Quelle a été l'attitude de votre ex-femme par rapport à ça? Est-ce que quel type d'attestation a-t-elle fait faire? Comment elle s'est débrouillée pour obtenir la garde de votre enfant?
Ah bah, c'était des attestations qui... Bah, qui disait que c'était une super maman, qu'elle était super avec sa fille, alors que moi, j'étais papa au foyer, c'est moi qui amenais majoritairement, on va dire, 80% de ma fille à l'école. C'est même moi qui faisais les potins d'école, qui côtoyait les mamans d'école et tout ça. Les sorties, il y en avait très peu, en tout cas à l'époque avec ces gens-là. Donc je ne sais pas, j'en sais rien, mais en tout cas, il y en avait beaucoup dans son milieu professionnel. Ça, il y en avait eu un paquet, comme quoi c'était... une personne incomparable, qu'elle était très professionnelle, que voilà, patati, qu'elle peut pas être une femme comme ça. Donc voilà, ça a joué, on va dire, je pense.
Et vous étiez préparé à ce qui vous opposait à votre ex-femme? Vous aviez des attestations, vous aussi?
Moi, j'en avais qu'une, la sincérité. C'est-à-dire que moi, j'avais celle de la personne avec qui, à l'époque, j'étais, chez qui j'étais hébergé.
Oui.
Qui me voyait tous les jours avec ma fille, qui m'a vu aussi avec ma grande et ma petite en même temps. Je discutais aussi avec ses propres enfants à elle. J'allais dans... Voilà, donc j'avais une vie... En fait, elle a comment dire, cité qu'en fait, tout ce qui se passait bien, et puis il y avait là aussi le rapport de la pédopsie qui disait que ma fille, quand elle l'a vue la première fois, c'était une fille très fermée, très timide. Et au fur et à mesure, elle reprenait des repères, elle était heureuse, elle retrouvait une fille joyeuse, voilà. Donc, j'ai amené de la sécurité à ma fille, tout simplement.
Ouais. Mais est-ce que vous, maintenant avec du recul, Christophe, vous comprenez que votre ex-femme, elle a beaucoup mieux préparé ça que finalement vous, parce que vous avez misé sur la sincérité, et j'entends, je comprends, mais... dans ces affaires de justice familiale, vous savez combien c'est important aujourd'hui de justement faire comme votre ex-femme a fait, des attestations, plein d'attestations qui reflètent combien on est une personne admirable. Même si finalement ces gens sont sûrement, ceux qui ont fait les attestations pour votre ex-femme, ils sont sûrement de très bonne foi, hein, parce que qui a vu à part vous cette violence et le côté sombre de votre ex-femme? Il n'y a que vous?
Oui, et puis ma grande qui l'a vécu.
Oui, et donc du coup, devant voilà. Le juge, ça ne comptait pas, ça?
Non, mais j'ai surpassé après en fin 2017, justement, parce que Alors, c'est là où l'histoire commence à être drôle, c'est que je suis repassé en 2017. Alors, là, je me suis préparé, parce que là, pendant ces 2 ans, j'ai eu des attestations où elle m'a fait une non-représentation d'enfant. Et puis là, ma fille, à chaque fois que je la recevais, ça pleurait. Pour vous dire que ma fille, elle a été jusqu'au point que quand je la ramenais chez sa maman, elle a vomi de stress dans la voiture.
Ah ouais.
C'est insoutenable. C'est vraiment insoutenable. Elle a toujours tout fait pour que les vacances soient jamais en même temps que les deux sœurs.
Et votre jeune fille aujourd'hui, elle a donc 8 ans et demi, hein, c'est ça ? 9 ans presque.
Maintenant, elle a 9 ans. Elle a 9 ans, elle va sur ses 9 ans et demi.
D'accord. Vous n'avez jamais proposé qu'elle prenne un avocat et qu'elle soit entendue par
Elle n'a pas l'âge encore. C'est ce qu'on me dit, c'est qu'elle n'a pas l'âge.
Elle n'a pas l'âge ? C'est à partir de quel âge, ça ?
Je crois que c'est aux alentours de 11-12 ans. C'est ce qu'on m'a dit.
D'accord.
11-12 ans. Voilà, donc je m'y prépare, et puis elle nous le dit des fois, quand on est en vacances, elle nous dit, papa, on va attendre que j'ai l'âge. Mais malheureusement, même à ça, j'ai rencontré un vieux magistrat qui m'a dit, à la retraite, qui m'a dit, mais même ça, c'est pas elle qui va décider. C'est-à-dire, même si elle porte sa voix en disant, je veux habiter chez papa, le juge peut lui dire non.
Non, bien évidemment que le juge peut lui dire non, mais...
Donc je l'ai préparé quand même, dire que, tu te donnes... Parce qu'elle a parlé à tout le monde. Elle a parlé à des pédopsies, elle a parlé à des gendarmes quand il y a eu des histoires. Donc elle a parlé à beaucoup de gens. Et à chaque fois, personne ne. Il ne se passe rien. Donc elle ne croit plus en grand monde, on va dire là-dessus. Quand je lui dis, s'il se passe un souci, dis-le à l'école, machin, elle dit, non, parce que maman connaît bien la directrice. Voilà. Donc c'est le dit à la directrice va aller voir la mère, elle va dire, il paraît que ta fille, elle n'a pas bien, qu'est-ce qui se passe? Et puis on connaît l'histoire. Moi, si je vous explique les coups durs pour vous montrer la mentalité de la maman, je vais vous expliquer un coup. Qui m'est arrivé été 2018. C'est celui qui m'a le plus flingué. C'est que le jour du départ où on devait ramener ma petite à Bordeaux chez sa maman, ma grande, la nuit, elle a vomi un peu. Et puis le matin, elle se plaint, elle dit « Papa, j'ai mal au ventre et puis je sens plus ma jambe droite. » J'appuie au niveau de la panicite, là... Elle s'effondre, elle me fait j'ai mal. Donc on va en urgence très vite du côté de Vannes. Je la dépose, examen. Sa maman qui habite du côté de Quimper se déplace parce que elle ne travaillait pas, donc elle attend de finir le travail et puis elle se déplace. Elle voit sa fille, puis là le médecin il dit péritonite aiguë. Ça c'est un truc qui nous tombe sur le truc. Et le médecin nous a dit là vous étiez pratiquement à 4-5 heures de perdre votre fille. C'est-à-dire que si je serais descendu à Bordeaux, j'aurais perdu ma fille dans la voiture. Donc, j'envoie des messages à la maman à Bordeaux et je lui dis, je suis aux urgences, Mila va se faire opérer, je te tiens au courant des avancées pour te ramener ta petite. D'accord, mais dépêche-toi, tu me rappelles demain. Le dimanche, je la rappelle, je lui ai dit que l'opération s'est bien passée, mais que Mila a des complications quand même et qu'elle doit rester 5 jours à l'hôpital. Et je lui dis, vu que tu travailles, la petite reste avec sa sœur. Les sœurs ne pouvaient pas se séparer. Et là, elle a porté plainte contre moi pour non-représentation d'enfant, alors qu'elle savait très bien la situation. Les gendarmes m'ont appelé à l'hôpital alors que j'étais avec mes filles pour me dire « rendez la petite ».
Pourquoi, à votre avis, qu'est-ce qu'elle a à voir être en colère comme ça, votre ex-femme ?
Alors là, je vais être sincère, elle ne me l'a jamais dit. Je ne sais pas. Peut-être que le fait d'avoir mis à jour, d'avoir dit qu'elle était méchante, en fait, tout simplement, j'en sais rien. Sérieux, je vais être sincère avec vous, Olivier, je n'en sais rien du tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Vous n'avez jamais eu l'occasion de pouvoir vous poser avec elle. Elle refuse le dialogue avec vous pour le bien des enfants.
C'est très dur. C'est une personne qui me connaît très bien. Donc, je suis quelqu'un de très calme, on va dire en général. Mais ce que j'aime pas, c'est le manque de respect et qu'on me coupe la parole. Ça, c'est un truc... Et donc, quand on est au téléphone, elle a le don de faire un monologue où dès que j'engage moi la conversation, elle me dit « Mais arrête de dire des bêtises. Mais arrête, là, tu dis n'importe quoi. » Donc, elle pousse les gens, en fait, à son retranchement. Voilà, elle pousse. Donc moi, je craque et je lui dis « Ah, c'est bon, tu me saoules. » Parce que ça... Elle ne laisse pas parler, en fait. Et quoi que je dise, de toute façon, c'est de ma faute. Donc, essayer de discuter intelligemment de pourquoi on s'est séparé, de pourquoi elle est en colère. Bon, là, je n'en sais rien du tout. Pourquoi elle dit aux autres que je suis méchant? Pourquoi elle raconte, raconte beaucoup de bêtises à ses collègues, à son entourage? Je n'en sais rien. Moi, je n'en sais rien. Moi, ma petite, j'ai pas besoin d'en... Moi, je n'en parle pas aux gens parce que les gens, voilà, je suis quelqu'un de discret. On va dire que je suis revenu à Quimper, je ne suis pas entouré d'énormément de personnes. Je ne suis pas quelqu'un de... qui aime, on va dire, la masse. Mais je n'ai pas besoin de parler. C'est ma petite qui parle, c'est ma grande qui parle quand on est avec des amis. Et puis, voilà, elle se lâche, elle se libère. Et puis, il voit le comportement, il voit, voilà, c'est très particulier. C'est pour vous dire que je suis tellement... Parce qu'elle dit que je suis un mauvais papa, donc ça fait mal à ma grande d'entendre ça. Et le truc le plus aberrant, c'est que la femme avec qui je vis actuellement, et puis que on essaye d'avoir une vie, on va dire, comme monsieur tout le monde, mais bon, avec les soucis de ce qui se passe, ça nous atteint. Eh ben, c'est l'ancienne Loulou quand même à ma fille. Donc, ça fait 3 ans qu'on se connaît. Donc, si elle saurait que je serais quelqu'un de mauvais, je ne pense pas que je serais avec. Mmh. Dans la logique. Elle connaît bien mes enfants, elle connaît bien mes filles, tout se passe bien. Donc, voilà, ça ne serait pas...
Qu'est-ce qui peut s'arranger dans cette situation, à votre avis? Quelle solution il y a aujourd'hui?
J'en sais rien, pense qu'à l'argent. La seule chose qui m'intéresse, quand on essaie de discuter sur... sur notre fille, c'est l'argent. C'est tout. Alors qu'elle n'est pas du tout en manque, la maman, parce qu'elle a un haut poste, donc elle n'est pas vraiment en manque financièrement. Là, c'est l'histoire encore qui m'est arrivée en 2018, quand justement à la fin du jugement de 2017, c'est qu'on m'a condamné sur pour la pension alimentaire. À l'époque, j'avais beaucoup d'arrêts maladie parce que j'ai un problème, justement, je fais du psoriasis, ouais, à cause de ça. Nerveux, donc des fois, j'ai des plaques entre 20 et 30 cm sur ma peau. Là, depuis quelques temps, ça commence à toucher les articulations. Donc, je ne peux pas travailler tout le temps. Et le juge a dit que pour ma pension alimentaire, il m'a mis 2 feuilles d'impôt qui n'étaient pas les miennes pour justifier la pension alimentaire. Il a inventé un salaire que je touchais au chômage, alors que j'ai les papiers qui prouvent très bien qu'à l'époque, je n'étais même pas inscrit à un point d'emploi. Et les feuilles d'impôt, c'est pas les miennes, c'est celles de mon ex-femme. Alors que moi, j'étais papa au foyer. Donc, le juge m'a mis cet argent-là sur le dos pour dire, bon, bah, en fait, il travaille. Quand il a envie de travailler, c'est sûr qu'il cache l'argent. Et voilà, il ne veut pas payer. Donc, je n'ai pas accepté de payer cette pension alimentaire qui était augmentée, alors qu'avant, je payais l'autre. Parce que l'injustice, je ne le supporte pas. Et puis, mon avocat m'a dit que si je la payais, je rentrais dans le système de dire qu'après, je ne pourrais pas contredire. Donc, je me suis battu pendant plus d'un an pour essayer de faire comprendre mes droits. Là, la CAF a commencé à me prélever sur le peu que je touchais, c'est-à-dire quand même 250 € quand on est au chômage et qu'on touche 900 €, ça fait mal. Ça fait très mal. Donc, je repasse à la JAF en montrant les preuves de l'erreur. Et on est passé de 150 à 200 € par mois. Et comment dire, le juge a juste simplifier la bêtise de l'autre juge en disant « il ne conteste pas ». Donc je ne conteste pas, c'était bien mes salaires, c'était bien mes feuilles d'impôt, alors que ce n'est pas à moi. Et il augmente la pension alimentaire de 50 € rétroactif à 2018.
Ce qui fait que vous avez été obligé de payer combien en tout?
Maintenant, je me retrouve avec, on me prend 350 € sur le chômage ou quand je travaille, 350 € et j'ai pratiquement 3 000 € d'impayés à la CAF, alors que le jugement n'est pas bon. Et voilà, donc j'essaie à chaque fois de prouver, et puis pour bien me faire comprendre la justice, qu'il fallait mieux que je me taise, me rajoute à payer l'avocat de la partie adverse alors que j'ai le juge directionnel, et en même temps me fait une petite amende bien sympa de 2 000 €.
Ouais.
Voilà. Donc c'est dur à avaler, on va dire.
Et finalement, donc vous n'arrivez jamais à discuter avec elle. C'est niette. Il y a que pour vous, il y a que l'argent qui l'intéresse. Donc.
Ah bah oui, parce que dès qu'elle en parle dans les textos, de toute façon, c'est que dès qu'elle parle des textos, c'est de toute façon tu t'occupes pas de ta fille, c'est une question d'argent. Et quand je lui dis mais tu touches l'argent de la CAF, donc tu sais très bien, puis elle me dit moi je touche rien. Donc elle est dans le déni total de tout. Voilà. Et l'avocate que j'ai actuellement, quand elle voit le dossier, donc elle lit le dossier, elle a relu tout, même la séparation de la maison est un cas assez particulier, elle relit tout, elle m'a dit, tout ce qu'elle veut, c'est vous foutre à la rue. Voilà. Soit vous foutez à la rue, ou soit vous arrêtez, vous mettre en fait en démission de père, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus la prendre, donc elle va dire, ah ben, après, elle va plaider que, ah ben, que vous ne prenez plus votre fille, donc en démission, et puis voilà, bon, en gros, vous enlevez la garde, et puis... En fait, elle essaie de rayer ma vie de ma petite. Et donc de sa grande demi-sœur aussi, quoi. C'est très dur à encaisser, ça.
Bien sûr, ouais, j'entends.
Ça, c'est très, très dur à encaisser.
Et j'en reviens à ma question. Vous n'avez jamais essayé de d'avoir des rapports avec elle un peu plus apaisés?
Ah si, j'ai essayé, mais à chaque fois, c'est toujours de ma faute à moi. C'est
Elle
toujours de ma faute.
elle ne veut pas discuter avec vous.
Bah en tout cas, elle ne veut pas discuter sur le moment présent. À chaque fois, c'est dû au passé. À chaque fois, c'est t'es qu'à pas partir. Voilà, c'est toujours lié à ça.
Alors, il est sûr que, si j'ai bien compris, en fait, vous êtes parti avec la nounou.
Ah non, je ne suis pas parti avec la nounou. Non,
Ah,
non,
d'accord, ok, parce que j'avais
non.
con.
Enfin, non.
D'accord.
Non, non, la nounou, en fait, c'est quand je suis revenu m'installer en Bretagne, j'avais trouvé un boulot où je
Oui.
travaillais en tant que chauffeur pour une association. Et un été, j'ai eu besoin d'une nounou, et puis on m'a présenté cette ravissante dame, et puis voilà, c'est devenu ma nounou, après c'est devenu une amie, après c'est devenu une grande copine à mes filles, et
Oui.
puis là, depuis peu de temps, c'est devenu ma compagne.
D'accord, mais elle n'était pas, en fait, elle n'avait rien à voir avec votre ex-femme. Elle ne la
Ah non,
connaissait
du
pas.
tout.
D'accord,
Non,
ok,
non, du tout. Elle la
d'accord,
connaît pas du tout. Elle la
d'accord.
connaît pas du tout.
Et
Non,
est-ce
non.
que vous avez remarqué que depuis que vous avez refait votre vie, finalement, vous avez remarqué qu'elle était un peu plus à cran, votre ex-femme?
Oh, je pense, oui.
Ouais.
Je pense. Elle a parfait sa vie, elle, depuis, je pense. En tout cas, ma petite, elle m'a dit, maman, elle n'est pas comme toi, elle n'a pas de copain. Donc, voilà, elle n'a pas de copain.
D'accord.
Donc, oui, alors là, j'en sais rien. Là, je peux pas. C'est tellement déjà compliqué à gérer la situation que si en plus je dois me mettre dans le cerveau de mon ex-femme, alors là, j'avoue que je vais être perdu. Je serai perdu.
Non, mais il n'y
Je
a
n'arrive pas à
aucune
comprendre.
raison. Ça,
Non, mais
ça.
même pour essayer de comprendre des fois, pour essayer de comprendre ses gestes, pourquoi elle dit ça ou pourquoi elle fait ça, je n'arrive même pas à le savoir. Ça, c'est assez fatigant. J'ai essayé au début parce qu'on essaye. Au plus fort que nous, on essaie de comprendre, mais on se rend compte en fait que ça nous fatigue. Mais il n'y a pas que moi, il y a aussi des papas qui vivent et qui font l'inverse à des mamans, c'est très compliqué. Et depuis que j'ai ouvert ma page sur Facebook, je me rends compte qu'il y a même des grands-parents où les enfants leur font plus voir les petits-enfants. Donc on arrive à un stade où là on se dit, mais il se passe quoi en fait? Il se passe quoi?
Et
Voilà, on ne sait
vous
pas.
êtes accompagné quand même dans cette galère? Vous vous sentez soutenu par vous faites allusion aux grands-parents.
Mes
C'est.
proches, oui. Mes proches, je suis soutenu par mes proches.
Ouais.
Je suis soutenu par les gens. Quand j'ai ouvert la page, quand j'ai fait ma démarche de passer par la presse pour dire que j'allais marcher jusqu'à Paris, j'ai dû m'arrêter à cause de mon problème de santé. Le nombre de soutiens des gens était incroyable, c'était magnifique. Ça donne vraiment du baume au cœur. Là, je peux vous dire que quand j'arrivais à 50 km de marche, voire 60, et que j'étais sous la pluie depuis 2 jours, et que j'ai mal partout, et que j'avance, et que j'avance, et que j'avance, le soutien des gens était incroyable. Je me suis même arrêté à des bars pour boire des cafés, c'était les gens qui me payaient mon café. Donc c'était, voilà, ça, j'ai trouvé ça très admirable. Les gens sont adorables.
Et vous êtes allé jusqu'où alors?
Ben, je me suis arrêté à Quimperlé parce que j'ai fini aux urgences.
Ouais.
Et quand je suis reparti, il y a un médecin qui m'a appelé en disant, vous êtes encore en train de marcher? J'ai dit, bah oui, hein, je vais aller jusqu'à Lorient maintenant. Et puis il m'a dit, non, non, faut arrêter, votre santé
Pourquoi vous
est
êtes allé aux
vraiment.
urgences en fait?
Parce que mes jambes n'arrivaient plus à se déplier pratiquement.
Oui,
J'arrivais plus.
vous
Ouais.
avez entamé un. Vous êtes lancé un sacré défi quand même. Parce que.
Oui.
Relier Quimper à Paris, c'était un sacré truc quand même.
Bah, c'était pour causer, et puis à chaque fois m'arrêter à des mairies, essayer de voir des députés, faire bouger les choses en fait, essayer de plaider aussi bien ma cause que celle de d'autres
Bien
parents.
sûr, bien sûr. Mais bon, c'était.
Donc, j'ai pas envie de me mettre dans une grue parce que j'ai le vertige, je vais être sincère. Voilà, et puis je voulais que ça parle plus qu'une journée, je voulais que ça parle sur plus de temps. Et puis en fait, les portes des mairies se ferment. les partis politiques se ferment, il y en a qui m'ont sorti que ce n'était pas leur problème, il y en a qui ont dit si on devrait s'occuper de tout le monde comme vous, on n'aurait pas fini. Entre parenthèses, il y a même des partis qui nous ont dit bah, nous, on a déjà des problèmes juridiques, donc voilà, on ne va pas s'en mettre d'autres. Et voilà, tout le monde ferme la porte. On s'en fout. On s'en fout qu'il y ait des problèmes de justice, que les juges fassent ce qu'ils veulent, certains, parce que moi, j'ai rencontré des très bons magistrats. Mais là, ceux qui m'ont jugé, faire défaut, bah, on ne peut pas appeler ça faire défaut, mais m'imputer des choses qui ne sont pas à moi, je me dis, s'il y a des papas et des mamans qui tombent sur des juges comme ça, mais ça crée des dommages. Moi, j'ai rencontré un monsieur qui était un papa dans ma situation pratiquement. Et puis un jour, on rigolait sur un chantier, et puis il me dit « Oh, bah tu sais quoi, il ne manque plus que la pédophilie pour mon ex. » pour le discriminer carrément de son rôle de papa. Et puis un jour, je ne le vois plus sur le chantier. Je dois en discuter avec, d'autres gars, et puis ils me disent « Bah non, on ne l'a pas vu. » Et puis je prends des nouvelles, et puis j'ai appris qu'il s'était suicidé parce que sa femme avait porté plainte pour pédophilie. Voilà. Donc on croise des gens comme ça, on croise des gens qui démissionnent, on croise des gens qui tombent dans l'alcool, on croise des gens qui sont en dépression, on croise des gens qui craquent. Et c'est dur de voir des gens, quand on les voit avec leurs enfants, ils sont, on a l'impression de voir deux gamins, c'est magnifique. Et puis quand on les voit ne plus les avoir, et puis les histoires qui leur tombent sur le dos, on a l'impression que c'est la personne se transforme en roche, elle se ferme, elle n'existe plus.
Elle est au courant, votre ex-femme, que ça vous met dans cet état-là, que vous êtes au bout du rouleau ?
Oui, mais elle s'en fout. Elle s'en fout, totalement.
Vous êtes intimement persuadé qu'elle veut vraiment vous éliminer, quoi. En tout cas, que vous n'existez plus pour votre fille.
Pas que moi. Il y a aussi ma première compagne avec qui j'ai ma grande, qui subit ça.
Ouais.
Parce que c'est elle qui... C'est avec elle, malheureusement, que je négocie, que j'embête dans sa vie privée et professionnelle, à changer les vacances pour que les soeurs puissent se voir, parce que la deuxième ne veut pas faire d'efforts. Elle lit le jugement comme une Bible. C'est année père, première semaine, année impair, deuxième semaine, c'est comme ça. On ne va pas essayer de négocier à savoir si elle est avec Mila ou avec sa grande sœur ou pas, on s'en fout. On s'en fout. C'est à moi de gérer. Elle s'en fout. Pas d'efforts. Donc je m'arrange toujours avec la première maman pour que tout se passe bien. Et des fois, c'est un peu pas. Mais on fait toujours le maximum. On a été jusqu'à... Cette directrice d'école, quand elle était en CM2, elle a été jusqu'à lui faire rater 3 jours d'école pour qu'elle puisse voir sa sœur. Donc de mon côté, on fait le maximum pour que les petites soient ensemble. Voilà. Et moi, je demande pas grand-chose, en fait. Je demande pas que sortir les drapeaux quoi que ça. Tout ce que je demande, c'est qu'on donne une pension alimentaire adéquate à ce que je touche. Et que dire à la maman d'arrêter de jouer à ce jeu de vacances et qu'elle pense plus au bien-être de l'enfant que de jouer avec une fille, quoi, avec ma petite puce, c'est tout. Mm-hmm. C'est tout ce que je veux. Qu'elle arrête de jouer. Voilà. Qu'il y a deux enfants qui vont devenir plus tard des adultes. Et que, voilà. Donc, sur là-dessus, elle vit le moment présent. Elle aime enquiquiner les gens.
C'est assez troublant de vous entendre parce qu'on sait... On sait qu'il ne faut pas séparer une fratrie, en tout cas que c'est mauvais. Et c'est assez troublant de vous entendre évoquer l'attitude de cette maman, parce que, obligatoirement, oui, c'est sa fille, c'est son enfant qui va en faire les frais de tout ça. Et, à votre avis, elle n'en a nullement conscience de ça ?
Bah, y a un moment, je me suis fait écouter par une psychologue, j'avais pris une psychologue, et elle m'avait dit qu'en fait, elle avait l'impression... qu'elle utilisait en fait ma fille pour m'atteindre. Voilà. Donc ma fille est devenue en fait un objet de je t'embête pas.
Mais oui, parce que j'ai envie de vous dire ça, Christophe, par rapport à ce que vous me racontez, c'est que comme d'habitude, il y a une situation, où il y a une petite fille qui visiblement s'entend très bien avec vous en plus, et puis une femme qui a l'air très en colère. Et puis vous qui me dites. Vous me dites, je ne sais pas pourquoi elle est en colère, cette femme. Et il faudrait chercher de ce côté-là. Vous n'avez pas gardé des amis en commun, en tout cas une amie ou un ami en commun qui pourrait servir de une tierce personne qui pourrait au moins servir de médiateur et apaiser les choses. Parce que cette situation, si elle continue, bon, eh ben, elle peut continuer encore des années comme ça, hein, avant que votre petite ait 11, 12 ans. À 12 ans, 13 ans, je doute qu'un juge n'entende pas votre fille. Mais à 10, 11 ans, il est certain que il est fort possible qu'un juge prenne une décision qui va à l'encontre de ce que votre enfant veut.
Et, oui, c'est clair.
Elle n'a que 8 ans et demi, donc vous allez attendre encore 9 ans et demi. Donc 9 ans et demi, voilà. Il y a encore au moins 2 ans à attendre. Au moins 2 ans, 2 ans et demi.
C'est ça.
Et donc j'en reviens à cette tierce personne. Il n'y a personne pour vous?
Non.
Non.
Toutes les personnes qu'elle a, il y a certains même que je connais quand même. Non, elle a raconté son histoire.
Et alors, elle raconte quoi? Que vous êtes colérique? Que vous êtes violent? Que vous êtes... Qu'est-ce qu'elle raconte?
Là, elle a fait un droit de réponse à la presse en disant que... c'est moi qui la prenais pas pendant les vacances. En gros, que j'étais un mauvais père. Il y a même quelqu'un de la famille qui a été raconté en commentaire sur la page Facebook du journal, comme quoi j'avais enlevé mon enfant, que c'était moi qui avais un mauvais père. Il y en a qui m'ont dit que j'étais pervers narcissique. Il y en a qui m'ont dit que j'étais que je faisais l'aliénation parentale moi avec mes filles. Ah non, mais on est à un stade là où je me suis même fait insulter sur... Et des gens que je connais, que je sais qu'elle connaît. Elle est dans son déni, dans son mensonge.
Ouais,
dans son...
C'est la guerre.
Ouais, c'est la guerre, c'est tout, voilà. Ouais. C'est juste sa petite personne.
Maintenant que la presse s'en mêle, c'est-à-dire que je suppose que la presse a suivi votre marche, oui. Et qu'elle s'est fait le relais de cette démarche. Elle doit se sentir regardée, montrée du doigt.
Je touche à une chose qui lui est très chère, c'est-à-dire son image.
Ben oui. Est-ce que c'est bien ça, à votre avis? Est-ce que c'est bien, à votre avis?
Ah non, je pense pas que c'est bien, mais en même temps, moi, qu'est-ce que je dois faire?
Je vous demande ça. De vous juger, hein, ou de. J'essaie de trouver des solutions, de me dire. Et puis, je me pose la question si c'est bien de l'acculer encore plus, cette femme. Parce que si elle est en colère, faire ça, à mon avis, ça ne peut que la mettre encore plus en colère.
Ah oui, et puis je sais que je vais payer de toute façon dans pas longtemps. Je le sais. Je le sais. On a un autre dossier sur le dos encore. Où on avait une maison en bien commun, en séparation par un papier de notaire, en la division de moitié, et elle s'est arrangée pour la justice à moi me faire payer 21 000 euros de la maison. Donc, je suis arrivé au bout, je ne peux plus voir ma fille parce que je n'ai plus les finances à cause de ma santé, je travaille quand je peux travailler, on prend tout mon argent, et puis là, elle m'envoie en plus en procédure maintenant pour me prendre encore plus d'argent. Et quand je lui dis que je ne peux pas prendre ma fille parce qu'elle sait très bien que financièrement, je ne peux pas, elle me dit en texto, si tu aimes ta fille, tu la prends.
Mais alors, vous ne pouvez pas prendre votre fille parce qu'elle est loin de vous, ou je croyais que vous étiez revenu à Quimper. En fait, tout le monde est à Quimper maintenant.
Non, la petite est toujours à Bordeaux.
Ah, elle est toujours à Bordeaux. Donc, c'est pour ça que vous ne pouvez pas descendre à Bordeaux. Et ça coûte de l'argent.
Moi, je l'ai pratiqué pendant plus de 3 ans. Je vais être sincère avec vous, Olivier, ça me coûtait 350 euros par vacances, juste pour l'aller-retour, les deux allers-retours.
Ah ouais, ouais.
Voilà, et là j'arrive à un stade où après j'ai voulu prendre le train. Donc le train c'était très bien, mais ça coupait les ponts avec mon ex-femme, donc elle n'appréciait pas trop, elle ne pouvait plus me voir.
Ça coupait les ponts, comment ça?
C'est-à-dire que je ne la voyais plus face à face. Il y avait ce train qui faisait que j'allais chercher ma fille à Nantes, et donc elle pouvait plus me voir, elle pouvait plus m'attaquer, elle pouvait plus jouer sur les sentiments, plus rien du tout. Je récupérais ma fille libre, je la remettais au train, rentrais chez sa maman, il n'y avait plus de communication, on va dire, assez agressive par le regard et par les mots. Comme si qu'elle avait une maîtrise, quelque chose. Parce que je peux vous dire que quand j'approchais de vers chez mon ex-femme, moi, le palpitant, c'était comme si je faisais une crise d'angoisse. J'avais les mains moites, les mains froides, le cœur qui se mettait à palpiter, c'était une horreur.
Pourquoi ça?
L'impression qu'il y ait toujours quelque chose qui va me tomber dessus. Voilà, un mot, des phrases, voilà, c'est toujours cette crainte, cette peur. Et puis quand je ramenais ma fille, c'était l'inverse. Quand on voit sa fille vomir dans la voiture, quand on voit sa fille stressée, pleurer pendant tout le long du trajet, ne pas manger les deux jours précédents parce qu'elle n'a pas envie de rentrer chez sa maman, on n'a pas envie de le faire, on n'a pas envie de ramener sa fille. Mais on est obligé parce que la justice dit qu'il faut la ramener. Sinon, voilà. Donc c'est dur à vivre. C'est très dur à vivre.
Vous en parlez beaucoup avec cette petite fille de ça, parce que il y a aussi vous échangez là-dessus. Quel est votre positionnement par rapport à cette petite fille?
Ma position, en fait, c'est que quand je la reçois, c'est assez exclusif parce qu'on ne se voit pas, on ne sait pas beaucoup au téléphone, donc c'est assez exclusif. On est beaucoup ensemble, c'est-à-dire nous et sa sœur. Et puis, je la laisse parler si elle a besoin de parler. Mais oui. Après, je ne dénigre pas sa maman. Je l'appelle toujours maman. Et voilà. Et quand elle me pose des questions un peu sur maman, je dis papa, il sait pas parce que papa, il est plus avec maman. Donc oui, je ne sais pas ma puce. Voilà, je ne sais pas comment. J'essaie d'éloigner le sujet parce qu'une fois, j'essaie de lui faire comprendre qu'on était en vacances et je sais que maman, ça la travaillait, mais faut pas zapper le moment présent. On a plein de choses à vivre. On doit aller au cinéma, on doit aller s'amuser, on doit sortir, on doit aller marcher. Donc
c'est bien ça.
Voilà, faut pas qu'elle élimine ce qui lui passe sur le moment par quelque chose qui l'angoisse, en fait.
Oui, parce que c'était le sens de ma question, c'est que vous pouvez vous retrouver en plus à être accusé de la manipuler, cette petite. Or, voilà, elle grandira aussi un jour, bien évidemment, elle se souviendra qu'à ce niveau-là, vous avez vraiment assuré, vous voyez?
Parce que... Ah oui, je sais très bien que j'ai jamais dénigré qui que ce soit de sa famille.
D'accord, c'est bien.
Ça. Après, ça, c'est personnel. Moi, quand j'ai envie de dénigrer sa famille, je me le fais moi-même. Vous savez, maintenant, je prends cette habitude.
Avec les grands.
Même pas. Je le fais, généralement, je le fais tout seul. C'est-à-dire que je prends mon Walkman, je vais au bord de mer, je marche, et puis dans ma tête, voilà, je vis. Je vis. Je vis. Parce que s'il faut crier, je vais dans une forêt, je crie.
Donc, là, vous n'avez plus les moyens de voir votre fille. Et de l'autre côté, on vous accuse de ne pas vouloir prendre votre fille, finalement. Constater ça par huissier.
Je pense que j'en sais rien ce qu'elle fait, mais je pense qu'elle doit faire derrière ses petits papiers avec son avocat. Et puis, oui, elle doit manigancer son truc. Mais moi, je suis arrivé à un stade, je vais être sincère avec vous, Olivier. Cet après-midi, j'en ai parlé un peu avec ma compagne, on se baladait tous les deux en fin de journée. Et j'étais arrivé à un stade en disant, mais à la limite, elle est sérieuse pour être tranquille. Je vais me démerder pour trouver l'argent, en se disant que je lui dois pour la maison, on va la payer. Je préfère limite que ce soit quelqu'un qui me prête l'argent et rembourser une personne qui j'estime, en fait, à qui j'ai énormément de respect. J'aurais beaucoup moins de mal à rembourser cette personne qu'à payer mon ex-femme, parce que là, ça m'embête, parce que j'étais papa au foyer, j'ai construit la maison, j'ai fait des travaux, j'ai évité de payer des impôts. Je lui ai donné beaucoup de choses pour cette maison et l'éducation de notre enfant, et de me rembourser en disant j'ai la maison, mais en plus tu vas me donner de l'argent. Je trouve ça, mais voilà, ça mérite un peu, on va dire. Je trouve ça un peu irritant. Et donc je préfère que ce soit quelqu'un, et je lui disais justement, tu vois, à la limite, je vais arriver au stade où, allez, on... Abandon parental, quoi. J'ai demandé qu'on m'enlève l'autorité. Tout.
Bon, alors vous calmer là-dessus parce que ça n'est surtout pas une bonne.
Non, mais c'est juste pour vous dire les pensées qui puissent vous arriver.
Ouais, parce que.
Tellement on est fatigué. C'est-à-dire, on laisse tomber. Parce que moi, tout ce que je cherche, c'est avoir une vie normale. Je veux pas que mon salaire parte pour faire plaisir à une dame, alors qu'elle gagne beaucoup plus que moi. Je veux juste qu'on prenne en compte la petite, point. Je veux juste qu'on me laisse mon rôle de papa. C'est tout.
Alors, il y a un auditeur qui nous a laissé un message pour vous dire qu'il a créé un groupe de parole pour les pères séparés sur Quimper, justement, en avril 2019. Et vous pouvez vous renseigner auprès du Centre social des Abeilles, quartier de la Terre Noire, à Quimper. Ce groupe de parole va être relancé d'ici quelques semaines et je pense que vous pouvez déjà aussi vous rapprocher d'autres pères qui vont vous soutenir aussi. Et puis il y a peut-être des solutions qui peuvent être trouvées, je ne sais pas, hein, mais Ouais, je pense au covoiturage qui coûte beaucoup moins cher. Mais bon, si vous n'avez aucun moyen, en même temps, il y a l'hôtel, enfin, je suppose que Bordeaux, c'est difficile.
Ah oui, je ne veux pas, par mesure de sécurité, je ne vais pas m'amuser à partir à 5 h du matin de Quimper, prendre ma fille et puis refaire 5 heures ou 6 heures de route au retour.
Oui.
Donc, il y a tout ça.
Écoutez, essayez, Christophe, de vous...
Ne vous inquiétez pas, j'essaie.
Au moins de ce groupe de parole de père, hein, donc,
d'accord.
Hein, au Centre Social des Abeilles, quartier de la Terre Noire que vous connaissez visiblement. Essayez de vous rapprocher d'eux et puis, bien évidemment, je vous souhaite plein de courage parce que voilà, la situation n'est pas facile, mais elle n'est pas désespérée. N'oubliez pas et ne prenez pas cette décision de tout arrêter, ça c'est clair.
Ne vous inquiétez pas, je vous disais juste les pensées qui me passaient par la tête.
Très bien, très bien.
Voilà.
Bon courage.
Maintenant, si je peux te dire, est-ce que je peux juste.
Dépêchez-vous parce que c'est gens... fini là, il faut que je dise au revoir.
D'accord. Que les gens me retrouvent sur papa.endétresse sur Facebook. Et puis qu'ils viennent partager aussi également, soutenir. Voilà.
Très bien. Voilà. OK. Merci Christophe.